Lilith, Martine et les autres. Bonjour et bienvenue sur Lilith, Martine et les autres, la plus féministe des émissions. On est sur Radio Canu 102.2. Alors aujourd'hui, on va parler des jouets sexistes à l'approche de la belle période de Noël. Donc, on a avec nous une chercheuse qui s'appelle Christine Morin, qui va nous accompagner tout au long de l'émission. Et donc, pendant cette émission, on va écouter déjà des micro-trottoirs qui ont été faits par deux de nos collaboratrices devant des magasins de jouets. Et on va entendre les réactions donc de cette chercheuse sur ces micro-trottoirs. Ensuite, on aura une interview en direct du collectif contre le publisexisme de Paris. Et ensuite, on passera à la présentation de livres, les infos, etc., etc. Donc voilà, bienvenue sur Lilith, Martine et les autres, sur les jeux sexistes.
Bonjour Christine, merci d'être aujourd'hui avec nous. Et est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, avant d'écouter les interviews?
Oui, je suis Christine Morin-Messabel et je suis maître de conférence à l'UFM de Lyon, Lyon 1. Et je travaille comme thème de recherche sur les problèmes de la, on va dire, du genre en éducation.
Donc Christine, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le problème des jouets sexistes ?
Bien, alors d'abord, je voudrais rappeler que le jouet est un élément fondamental du développement de l'enfant. C'est-à-dire, le jouet est nécessaire à son développement pour plusieurs raisons. Et d'ailleurs, il y a plusieurs types de jouets, du coup, en lien avec ces éléments-là. C'est-à-dire qu'on a des jouets qui sont ce qu'on appelle, qui favorisent la créativité, l'imagination. Parce que le jeu, c'est un moyen aussi de s'échapper et d'imaginer des choses hein, à travers un jouet. Puisqu'il y a des enfants qui jouent d'ailleurs avec pas grand-chose, hein, des caisses, des... Bon. Donc, le jeu fait partie du développement de l'enfant. Il est fondamental. Alors, il y a différents types de jouets, hein. On peut catégoriser, il y a des jouets, ce qu'on appelle d'imitation, et je vais y revenir, parce qu'ils concernent directement les problématiques de sexisme. Il y a les jouets de créativité, les jouets donc d'imagination, les jeux de logique, les jouets de logique, enfin bon. Il y a plusieurs types de catégorisation. Et en fait, le problème posé, en tout cas soulevé par ce qu'on appelle le sexisme dans les jouets, c'est qu'il existe effectivement, surtout au niveau des jouets d'imitation. Ce qu'on appelle les jouets d'imitation, par exemple la dinette, faire comme les parents, faire à manger, etc. Alors le problème des jouets d'imitation, c'est que souvent, il y a des jouets qui sont clairement identifiés comme relevant du féminin et des jouets clairement identifiés relevant du masculin. Alors les jouets, le problème, c'est que les jouets clairement identifiés du féminin sont par exemple, et je pense que tout le monde les connaît, la dinette, dans les jouets on trouve aussi, c'est assez fascinant, des aspirateurs, des poupées, ça c'est très classique, des poupées, tout ce qui concerne l'esthétique, hein, les miroirs, le maquillage, etc. Tout ça est associé au féminin, et c'est ce qu'on effectivement on propose aux filles, hein, généralement entre 3 et 10 ans. Et puis pour les jouets des garçons, c'est souvent donc des jeux qui relèvent soit des armes, soit c'est des héros avec des voitures, avec des camions, avec des jeux de construction aussi, là aussi j'y reviendrai. Donc si on observe comme ça des jouets qui sont proposés aux enfants, on a beaucoup de jouets qui, on va dire, qui sont catégorisés dans l'espace féminin masculin, pas tous hein, il y a ce qu'on appelle les jouets neutres de plus en plus, et c'est souvent des jouets, donc je le précise, des jouets d'imitation. Alors le problème, pour essayer de poser le problème clairement, c'est que en fait, les jouets d'imitation font partie des jeux que l'enfant aime avoir. C'est-à-dire qu'on a tous joué à la dinette, etc. Le problème, c'est qu'on associe ces jeux-là, en tout cas par exemple la dinette, à un sexe. Voilà. C'est que à la limite qu'un enfant s'amuse à imiter un repassant. C'est pas gênant à partir du moment où on le sexue pas, le faire à repasser, c'est-à-dire que c'est un jeu par ailleurs, et donc du coup c'est le problème souvent qu'on retrouve dans les choix de jouets, c'est qu'on associe tout ce qui est jeu d'imitation, je précise, dans la sphère domestique pour les filles, les jeux d'esthétique pour les filles, enfin tout ce qui concerne l'esthétique, la princesse, etc., et qu'aux garçons effectivement on oriente des jouets qui sont plutôt vers, alors les jeux de construction notamment, les jeux de héros, enfin d'aventure, etc. Et donc en faisant ça, on fait passer ce qu'on appelle une socialisation différenciée, et qui n'est absolument pas d'ailleurs en adéquation avec ce qui est dans la réalité. C'est-à-dire que dans la réalité, Là, il y en a des femmes qui travaillent, bon, des hommes qui font la vaisselle, par exemple. Quand je dis, c'est pas un déco de la réalité, c'est qu'en vrai, on maintient comme ça des éléments de rôle de sexe, de transmission de rôle de sexe, et qui tournent autour de la sphère domestique pour les filles, et de la sphère de l'aventure et de la construction et de la mécanique pour les garçons. Alors, le problème est que normalement, un jouet n'a pas de sexe à ce niveau-là, comme je vous l'ai dit, hein, on peut avoir envie de faire comme papa ou maman et repasser, mais hein, a priori, le jeu d'imitation, le jeu en tant que tel n'a pas de sexe, voilà. Et donc le problème qui est associé, c'est effectivement cette reproduction-là, alors qui va relativement, enfin qui pose vraiment des problèmes, parce que il y a une deuxième chose auquel, enfin, je voulais faire référence, c'est qu'au-delà du fait que il y a des jouets réservés entre guillemets aux filles, alors je reviendrai sur la couleur et tout ça parce que c'est très spécial, mais au-delà du fait qu'il y a des jouets qui sont réservés aux filles et des jouets réservés aux garçons, derrière, comme je viens de le dire, il y a tout ce qui fait référence à la sphère domestique pour les filles et à l'esthétique, donc ça fait partie des rôles de sexe et du féminin. Entre guillemets, et le masculin vers par exemple les jeux de construction, alors ou les jeux d'aventure, etc. Donc ça oriente aussi, ce qu'on va dire, enfin ça normalise, en tout cas ça oriente les enfants, filles et garçons, vers des choix en tout cas différenciés. Et donc du coup, en ce qui concerne notamment, je voulais faire une petite aparté sur le jeu de construction. Les jeux de construction, c'est aussi travailler sur l'espace, c'est travailler sur l'imagination, etc. C'est quand même relativement gênant que ça soit entre guillemets réservé par le texte et l'iconographie aux garçons, parce que je vais y revenir sur les supports de catalogue parfois, ou même dans les magasins, le fait aussi de colorer, de donner des couleurs, et je vais y revenir si ça vous intéresse, de donner certains types de couleurs à des objets, fait qu'on les oriente d'un côté ou d'un autre, et que les enfants effectivement, du coup si vous proposez un objet, par exemple je sais pas moi, un Lego rose, il va être connoté féminin. Et les petits garçons, effectivement, risquent de ne pas choisir à cause de la couleur et non pas en termes de l'objet joué, quoi.
Et moi, juste, j'ai une question. En quoi ça crée une hiérarchie ?
Bah, ça crée une hiérarchie parce que, comme je l'ai dit, les jouets d'imitation, toujours, je précise quand même, ou d'esthétique, etc., font référence à la sphère domestique. Oui. Alors que les jouets pour garçons, c'est l'aventure, l'espace, la construction, voilà, font plus référence à des espaces professionnels, en tout cas, des espaces professionnels, et à ce qui est aussi valorisé, je veux dire, socialement. Donc ça crée une hiérarchie, et puis il y a un effet d'asymétrie qui est extrêmement intéressant à souligner. C'est le fait que on autorise, alors ça interroge, ça devrait interroger beaucoup de gens, le fait, c'est pour montrer l'asymétrie sociale. Entre les sexes, c'est que quand une petite fille joue avec un jouet entre guillemets, j'ai toujours des guillemets de garçon, finalement ça gêne pas grand monde, hein. On dit ah ouais, elle joue avec des jeux de construction, super, etc. En revanche, et ça c'est où on voit la symétrie sociale, quand un petit garçon veut jouer avec une dinette ou une tête à coiffer ou des choses comme ça, ça passe beaucoup moins bien. C'est-à-dire on autorise moins la transgression du garçon vers entre guillemets les jouets dits entre guillemets finalement que l'inverse. Ça c'est aussi un élément d'asymétrie. Alors, je dois dire que les choses évoluent. Je dois dire que à l'école maternelle, le fait d'avoir plusieurs supports de jeux, comme on propose à l'école maternelle, qui sont effectivement, il y a un coin jeu, mais il n'y a pas un coin sexué, il y a un coin jeu, ça favorise effectivement l'expérience de différents types de supports pour les enfants. Et c'est très courant à l'école maternelle qu'on voit des petits garçons jouer à la tête à coiffer, à la dinette, parce qu'ils adorent ça, simplement parce que c'est un jeu d'imitation, parce qu'on reproduit des gestes. Et c'est tout à fait intéressant pour eux ce type d'expérience grâce à l'école.
Alors, et ben on va pouvoir lancer la première interview.
C'est pour les enfants à qui vous voulez offrir.
Jouets éducatifs, si on arrive à trouver.
D'accord.
C'est quoi en fait pour vous ? Par exemple ?
Ben, mettre les cubes dans les bonnes formes ou les puzzles et trucs comme ça, quoi.
D'accord. Et c'est plutôt des filles ou c'est plutôt des garçons?
Il y a les deux, en fait, en l'occurrence.
D'accord, ok. Et du coup, ouais, donc c'est éducatif. Et est-ce que vous partez de ce que l'enfant dit qu'il a envie d'acheter ou vous-même ce que vous avez
non,
envie
de... Non, ils sont petits, en fait.
Ils sont encore petits.
On peut faire encore D'accord. ce qu'on veut pour l'instant.
D'accord. Et du coup, est-ce que c'est un peu le sexe de l'enfant qui oriente votre choix ? Ou vous faites des jouets plutôt mixtes ou...
Bon, si, c'est quand même le sexe, c'est, je pense que...
Après, c'est... Ouais.
C'est-à-dire qu'une dinette à un garçon...
Non, ça le fera pas, je pense pas. C'est plutôt un ballon de foot.
D'accord.
Donc voilà. C'est un garçon, en l'occurrence, à qui vous offrez ?
Ouais, un garçon et une fille, là, aujourd'hui.
Ah, les deux.
Voilà.
Et vous pensez, du coup, pour le garçon, il n'aura pas de dinette et la fille, c'est sûr.
Voilà.
Elle n'aura pas de tracteur.
Voilà.
D'accord. Mais pourquoi?
Je pense que c'est dans la mentalité, moi.
Ouais.
C'est plus... Bon, après, peut-être que si, hein, il y a vraiment la dinette, mais... Un garçon qui aura plus besoin de se défouler qu'une fille qui a plus besoin de jouer à la poupée, quoi.
Ouais.
Donc voilà, tout simplement.
Et par exemple, si vous avez des enfants et que justement un de vos amis ou une de vos amies offre par exemple une dinette à votre garçon, si c'est un garçon, est-ce que vous le laisseriez jouer ou est-ce que ça vous poserait problème et...
Bah oui, je vois pas pourquoi on ne le laissera pas jouer. Après, c'est à lui de voir s'il aime ou n'aime pas.
D'accord.
S'il n'aime pas, il le laissera dans le coin. S'il aime y jouer, il y jouera, quoi.
D'accord, mais vous-même, vous ne ferez pas la démarche
jouer avec lui
Peut-être pas. C'est la maman. C'est la cuisinière, c'est pas moi. Donc voilà.
D'accord.
Okay. Vous jouez avec lui.
Ouais, ouais. Sans problème.
Et pour vous, qu'est-ce qui caractérise la différence entre un jouet de garçon et un jouet de fille?
Mon avis, déjà, il y a les couleurs qui jouent beaucoup, qu'on remarque. Ouais.
Puis les monstres, des trucs comme ça.
Et puis un jouet de garçon,
c'est plus les garçons.
Voilà, les trucs qui font peur,
les
ce
filles,
sera.
Ça brille.
C'est plus doux. Et puis ça fait plus de musique. Et puis un truc de garçon, comme on dit, c'est fait pour se dépenser. Ça va plutôt rouler ou faire peur ou il va se dépenser. Puis il faut que ça soit solide. Alors qu'un truc d'une fille, je pense que ça sera plutôt quelque chose de plus fragile. Donc il faudra plus d'attention, à mon avis.
Donc Christine, peut-être une réaction sur ce petit micro-trottoir?
Oui, dans le discours en fait est apparu le problème de. Alors c'est extrêmement intéressant parce que à la fois les parents et notamment apparemment le garçon, enfin l'homme, avait à la fois des propos extrêmement stéréotypés sur des stéréotypes d'ailleurs sur le féminin masculin, hein, parce que c'est en lien, les jouets entretiennent des stéréotypes sur ce qui relève du masculin et du féminin. Bon, en même temps, il était prêt à changer finalement, parce que plus vous posiez des questions et plus il était en train de dire oui, finalement, non, j'interdirai pas forcément, etc. Alors ça, c'est assez classique, c'est qu'il a une réponse finalement... Peut-être parce que le fait que vous ayez posé la question va l'amener aussi à réfléchir, et je pense que oui. C'était que sur le moment, il a répondu comme la plupart des gens répondent, finalement, c'est de dire oui, il y a des jouets pour garçons et filles, parce que si ça existe, c'est que forcément, quelque part, voilà, c'est ce qu'ils veulent, les enfants. En fait, non. C'est-à-dire, la demande est liée à l'offre. Hein. Voilà. Donc, les parents le savent bien d'ailleurs, parce que pour ses propres enfants, on a tendance à ouvrir, à élargir les champs de recherche. Quand on offre des jouets à ses propres enfants, on a tendance à aller du côté aussi de la créativité, de l'imagination, et pas uniquement se focaliser sur un style de jeu. Donc finalement c'était extrêmement intéressant parce qu'il a effectivement au début dit il y a des catégorisations garçons-filles, les filles sont... Alors il a sorti des éléments stéréotypés très classiques sur les stéréotypes masculin et féminin, les filles sont douces, les garçons ont besoin de bouger, qui sont des éléments stéréotypés, mais alors qui sont aussi alimentés par ce lien avec des jouets d'exploration ou des jouets d'esthétique, hein, c'est qu'on entretient à la fois les rôles de sexe mais aussi les éléments stéréotypés. Mais en revanche il a quand même une position extrêmement intéressante, c'est de dire finalement, ben, s'il avait envie d'une dinette, finalement, pourquoi pas, je ne vais pas lui interdire. Et là, je trouve qu'il avait une position très parent, quoi. Très, ben, s'il a envie d'explorer, et je trouve que c'est plutôt intéressant, parce que c'est pour ça qu'on fait ce type d'émission, à mon avis. C'est qu'a priori, il y a des fois des choses qui sont tellement évidentes. Bon, c'est tellement évident qu'on est du rose pour les filles et garçons. Et puis, quand on commence à réfléchir dessus, on s'aperçoit que oui, il y a beaucoup trop de rose, il y a beaucoup trop de bleu. Et puis, il existe surtout d'autres types de jouets. Et des jouets d'imagination, de création, de logique, etc. Et puis, je pense que les gens sont prêts, effectivement, à y réfléchir. Et je crois qu'il a eu une position... Ben, c'était assez intéressant, parce qu'au début, il disait, effectivement, des éléments stéréotypés. Puis, à la fin, il a pris conscience, effectivement, qu'on peut... que ça dépend, effectivement, des goûts. Alors, il a souvent un deuxième problème, c'est qu'effectivement, content, effectivement... Je répète souvent. Quand on travaille sur les jouets, ce qui est important, c'est de présenter plusieurs types de supports aux enfants. C'est-à-dire à la fois quelqu'un peut avoir envie d'une poupée, d'une dinette, mais aussi de jeux de caplas, de construction. Il y a plein d'autres choses. Et donc, ce qui est extrêmement intéressant à soulever, c'est justement cette possibilité de diversité qui existe. Et je pense concrètement que qu'il serait assez facile, la preuve en est, en discutant effectivement avec les gens, de les amener à se rendre compte un petit peu de l'enfermement de ce type de jouet dans un certain type de rôle.
D'accord. On peut peut-être passer à la seconde interview.
Et pour qui ? Là, on regarde, je n'achète rien aujourd'hui.
D'accord.
Et pour ma fille, ce sera une poupée Barbie. Et pour mon fils, un petit chimiste.
Un petit chimiste, voilà.
D'accord.
Et qu'est-ce qui oriente votre choix? C'est plutôt vous ou c'est plutôt la demande de l'enfant?
Les deux.
Les deux.
Les deux, on va dire. Trois et sept.
Et est-ce que du coup, parce que là, est-ce que c'est un peu genre le sexe qui oriente le choix que vous faites du jouet ou...
Non.
C'est vraiment ce que...
Non, parce que mon fils a eu une cuisine il y a 4 ans, donc ma fille a eu, l'année dernière, elle a dû avoir une voiture. Non, non, là, c'est...
Donc ça vous dérange pas, oui, d'acheter des voitures, des jetons pour une fille ou de la dinette pour un garçon ou des poupées ou...
Non.
D'accord. Et quand vous offrez à d'autres, enfin, pas forcément à vos enfants, à des enfants de vos amis...
Je respecte le sexe.
Vous respectez le sexe,
ouais.
D'accord.
Ouais, c'est pas forcément très évident de faire comprendre qu'un petit garçon puisse aimer un jeu soi-disant féminin et inversement une petite fille. Donc pour mes amis, je respecte le sexe.
D'accord. Et c'est une demande que eux formulent ou vous plus spontanément?
Plus spontanément, moi.
D'accord. Ok. Mais vous, par contre, si un ami offrait un jeu de construction à votre fils, ça vous dérangerait?
Non.
Pas du tout si ça vient de l'extérieur?
Non, pas du tout. Non, non, pas du tout.
D'accord.
Et la Barbie à votre fils?
J'aurais un peu de mal. Un poupon, ouais, ça m'a. Je devrais peut-être en avoir. Un poupon, ça me gêne pas. Barbie, elle est déjà sexuée, Barbie. Hein. Donc, on vient de lui dire justement que les poupées comme ça, en vrai, ça n'existait pas. Donc, on offrirait. Non, 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 je pourrais pas faire
ça. Et par contre, pour votre fille, ça vous dérange pas d'offrir une Barbie alors que.
C'est une Barbie princesse avec des ailes, ça n'existe pas non plus pour de vrai. Non, mais ouais, on reste encore maintenant le schéma. Une Barbie blonde avec des grands cheveux pour une petite fille. Non, mon fils, non, je pourrais pas. J'aurais plus de mal à accepter que mon fils ait un jouet vraiment très ciblé fille, type poupée Barbie. Inversement, ma fille, ça me gêne moins.
D'accord. Parce que, d'accord. Et vous expliquez ça par le fait que...
Bah, j'en sais rien, en fait.
D'accord.
Ça voudrait dire que votre fils, il est homo?
Non, mais je pense à la limite... non, je sais pas pourquoi, peut-être...
Ça, ça paraît plus facile pour vous, par exemple, qu'une fille elle soit plus dans des termes un peu masculins, alors qu'un garçon, il...
Peut-être. Ouais.
C'est un peu moins réservé au...
Peut-être, bah ouais, parce qu'on va dire, à la limite, en se projetant dans l'avenir, une fille a plus de mal à se positionner sur un marché typiquement masculin. Et les très grosses carrières sont plutôt typiquement masculines. On a une grande discussion hier sur les chefs et la cuisine. Les grands chefs sont des hommes, donc la cuisine n'est pas forcément un truc de fille.
Oui.
Voilà. Alors qu'on va dire inversement, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'un garçon, même dans une carrière peut-être dite féminine, ne rencontre peut-être pas la même pression, je dirais.
D'accord.
Non, peut-être parce que justement pour une fille, qu'elle puisse plus choisir sans forcément le concept de la pression sociale, une fille doit faire ci, doit faire ça. Voilà. Alors qu'un garçon, je pense que socialement, la pression est vachement moins forte.
D'accord.
Je pense, vous vivez peut-être vous aussi au quotidien. T'es pas mariée, t'as pas d'enfant? À ton âge, t'as toujours pas d'enfant? Voilà. Un garçon, on va dire, socialement, il n'a pas cette pression-là.
Oui, bon, donc c'était assez long comme témoignage, il y avait plusieurs choses qui étaient intéressantes, donc une dont j'ai déjà parlé, c'est la symétrie par rapport au choix du jouet, c'est-à-dire qu'elle voulait bien acheter un jouet, à la limite, entre guillemets, masculin pour sa fille, ça dérange pas, ça la gêne plus par rapport à Barbie et garçon, bah ça c'est la symétrie typique, hein. C'est-à-dire c'est la valorisation de la catégorie masculine en fait, hein. Donc c'est catégorie dominant-dominée, c'est-à-dire ce qui est du dominant, on peut s'en approcher, mais le dominant ne doit pas transgresser vers le dominé entre guillemets en termes de catégorie. Donc ça c'est assez typique. Elle reconnaît tout à fait qu'elle ne sait pas pourquoi. Voilà. Alors ce qui était aussi intéressant, c'est par rapport au choix parental. C'est-à-dire qu'elle a dit que pour elle, et c'est vrai que dans son discours, pour elle, elle dit bien qu'elle fait quand même attention. Elle a déjà offert une dinette à son fils, etc. Donc c'est quelqu'un qui exemplifie parfaitement bien les travaux sur le fait que quand les parents choisissent, ils ont tendance à avoir plus d'ouverture en termes de cadeaux pour leurs propres enfants que pour les enfants des autres. Elle l'a dit nettement. Elle a dit pour les enfants des autres, je choisis sexuer entre guillemets les jeux, et donc plusieurs travaux le montrent et surtout montrent que en fait ce type de stratégie est surtout lié à la norme sociale, c'est-à-dire à la pression sociale, je fais comme les autres, surtout pour les autres, et je vais pas transgresser, notamment pour les autres, à la limite pour moi, pour mes propres enfants, j'essaie de diversifier. Elle en a conscience tout à fait, elle le dit, qu'elle a bien envie d'ouvrir un petit peu, bon, pas trop pour la fille, et voilà, pour le garçon et la Barbie, mais quand même un peu, mais par contre qu'elle aura ce comportement beaucoup plus normatif de cadeaux, donc pour les enfants des autres, où elle va rester dans la norme, dans la norme stéréotypée, on va dire.
Mais ce que je trouve drôle, c'est qu'elle reconnaît quand même complètement la domination masculine, puisqu'elle dit dans la cuisine, il y a des chefs, donc c'est pas qu'un truc de filles, mais elle, d'un autre côté, elle l'appuie aussi, c'est assez
ambigu. C'est-à-dire que c'est assez classique, hein, l'alimentation, souvent des catégories dominées, sa propre domination, mais enfin, et c'est intéressant, c'est toujours des prises de conscience en la fois, c'est très classique, c'est des prises de conscience qu'effectivement, il y a une inégalité, quelque chose qui se passe qui n'est pas de l'ordre du normal, et en même temps, c'est comme ça un petit peu, c'est, voilà, et je pense que c'est aussi en discutant et en faisant ce type d'information, hein, radio, travailler avec des parents d'élèves, qu'on peut les sensibiliser à ça. Alors, elle a parlé du problème de l'asymétrie dans la sphère professionnelle, ce qu'on appelle les plafonds de verre. Hein, mais ça, c'est lié, effectivement. Alors, ça, c'est extrêmement intéressant, parce que si on analyse toutes ces problématiques d'orientation professionnelle, de choix professionnels, de pouvoir, y compris tout ce qui est pouvoir en politique, hein, c'est-à-dire comment on en arrive à avoir comme ça ces différences-là, ces différences, elles se construisent dès la petite enfance. Hein. C'est quelque chose, quand on dit que ça soit à travers les jouets, les catalogues de les jouets, les albums de jeunesse, où le héros c'est toujours un garçon, celui qui prend des risques, toujours le garçon, celui qui explore l'espace, c'est le garçon, celui qui va avoir accès à des jouets de construction, de logique, de physique, c'est plutôt le garçon. Bien évidemment, ça prépare en termes de rôle de sexe, ça prépare aussi en termes de projection de soi dans l'avenir, et ça a aussi des effets à plus long terme. En fait, on travaille, nous, sur tous les objets de socialisation qui différencient et qui reproduisent des éléments comme ça de rôle de sexe. Mais je pense qu'il faut à la fois faire ce type d'information, travailler sur les représentations. Il l'a dit tout à l'heure, le papa qui disait, je crois que c'est dans les mentalités, effectivement. C'est tout un travail sur les représentations et c'est tout un travail aussi sur les actions possibles par rapport en termes d'actions collectives pour changer des choses, donc pour essayer d'amener à réfléchir.
On va peut-être passer maintenant. En fait, on a interviewé la responsable du magasin. Donc voilà, voir un peu ce qu'elle dit.
Deux côtés. Un côté donc était indiqué par une signalétique avec un panneau rose marqué fille et une signalétique bleu garçon. Et je voulais vous demander par exemple pourquoi.
Les Pokémon sont du côté bleu par exemple. Alors il y a les parents, ils ont dit c'est pour les deux.
Oui, mais il y a aussi des baigneurs qui sont aussi pour les garçons. Simplement, dans la logique générale, si vous voulez, il y a des jouets tendance filles et des jouets tendance garçons. Après, rien n'empêche aux petites filles de jouer avec un Playmobil avion, hein, comme on vend d'ailleurs beaucoup. Et autant un petit garçon va jouer avec un baigneur Corolle. D'accord. Simplement, c'est dans la logique générale. Après, ça n'empêche pas qu'on a beaucoup de clients qui vont valser d'un endroit du magasin à un autre. Parce que la plupart du temps, de toute façon, les jouets sont mixtes. Hormis, vous avez vraiment certains jeux de construction comme les mécanos ou les Lego techniques qui vont être à 99% garçons et le maquillage qui va être à 99% filles. Mais sinon, tout le reste des jeux, que ce soit le créatif, la décoration de bougies, c'est filles-garçons. Il faut essayer quand même de trouver un ordre de rangement pour le magasin. Voilà.
C'est-à-dire que les poupons et les dinettes, maintenant, donc il y a des parents qui achètent ça pour leurs garçons. Enfin, dans
ah oui, oui, oui,
par
bien
exemple.
Sûr, bien sûr. Ouais. De plus en plus, parce que si vous voulez, bon déjà ça s'est démocratisé, mais c'est surtout qu'en crèche ou dans les organismes professionnels d'accueil pour la petite enfance, vous avez de plus en plus des possibilités de jouer à des jeux et de les tester. Donc forcément maintenant, les parents sont plus ouverts à faire jouer un petit garçon à la dinette, à faire semblant de jouer à fabriquer des gâteaux et à une petite fille à construire du Lego par exemple.
Ah d'accord.
Voilà.
Et les gens qui achètent les jouets, c'est pareil, c'est des hommes, des femmes ou il y a plus...
Ah bah pour Noël, nous on a un public vraiment familial. Donc ça va être, que ce soit des clients hommes ou des clients femmes, c'est mixte. Et c'est d'ailleurs très bien réparti. On a autant de papas maintenant qui viennent faire les courses que leurs mamans. Sauf que par exemple, les mamans ne vont pas venir le mercredi parce qu'elles sont avec leurs enfants. Les papas vont plus venir entre midi et deux. Donc vous voyez, chacun va avoir ses habitudes d'achat. Par contre, c'est vraiment très bien réparti sur la famille. C'est autant les parents hommes que les parents femmes qui font les courses.
D'accord. Et alors moi, quand même, ce que je me pose comme question, c'est avec cette signalétique, est-ce que vous ne pensez pas que le choix des enfants peut être un peu orienté en disant « bon, je suis une fille, ça va plutôt être pour moi, et ça, c'est garçon, ça va plutôt être pour moi ».
Alors, je ne pense pas. Parce que si vous voulez, les enfants, quand ils viennent dans un magasin de jouets, ils se promènent déjà dans tout le magasin. Ça, ils font, c'est comme un musée, si vous voulez. Donc, ils font tout le tour. Et en plus de ça, c'est très difficile à l'heure actuelle d'orienter les enfants. S'ils veulent un Lego, si une petite fille veut un Lego, si une petite fille veut un Playmobil, elle va faire le tour du magasin et elle va trouver le rayon Playmobil. Mais elle prendra un Playmobil, elle ne prendra pas une poupée.
D'accord.
Donc, et en plus de ça, la signalétique, si vous voulez, c'est très haut. Donc c'est vraiment situé pour aider les parents. Mais les enfants, eux, à hauteur de leur taille, si vous voulez, c'est les jouets. Et les jouets, pour eux, ça les fait rêver, quel que soit le rayon. Il n'y a pas de préférence.
D'accord, voilà. Ok.
Bon, donc il y a plusieurs choses, c'est que c'était assez long. J'ai des fois, il y a plein de choses qui me font réagir. Alors là, je vais quand même revenir sur l'histoire de la couleur. Voilà. Alors là, non, la couleur joue un grand rôle quand même dans l'orientation, parce que si vous proposez une guitare rose à un petit garçon, il n'en veut pas, quoi, dans la plupart des cas, parce que c'est connoté et c'est associé. On a beaucoup travaillé sur les couleurs, et d'ailleurs, dans les catalogues, on les repère très vite, les couleurs. C'est couleur rose pour les filles, rose, violet, parme. Pour les garçons, c'est des fonds bleus, verts, parfois rouge foncé. Donc là, non, ça a des effets. Hein. Il y a deux types d'effets. Hein. Ils sont liés à la couleur, et c'est d'autant les enfants qui sont sensibles, parce que la plupart, quand ils sont très jeunes, ne savent pas lire, donc c'est la couleur qui oriente. D'autre part, l'iconographie, donc ça s'appelle, et puis le texte. Hein. Le texte qui est souvent soit pour les parents, effectivement, soit pour les enfants, mais qui peut orienter. Par exemple, regarde ta poupée qui fait comme maman, quoi. Je veux dire, ça c'est clair. Hein. J'ai assez étudié ça pour le voir. Alors effectivement, quant au panneau, ben c'est de la catégorisation quand même. Hein, même c'est pour les parents, parce que du coup, c'est un effet d'interaction parents-enfants. C'est clair que c'est... Alors, une autre chose sur laquelle je voulais revenir, on a droit à un élément stéréotypé quand même qui me fait un peu sursauter. Moi qui ne suis pas disponible les mercredis, et qui ai des enfants, c'est qu'effectivement, les mercredis, non, les mamans ne sont pas toutes... Je précise, avec leurs enfants. Voilà. Et tous les papas ne sont pas entre midi et deux. Enfin, je veux dire, il y a des papas qui sont libres le mercredi, il y a des mamans qui ne sont pas libres le mercredi. Voilà. Mais là, on vient de voir effectivement émerger une phrase très stéréotypée qui, en général, fait toujours réagir. Enfin, en tout cas, moi, me fait toujours réagir. Voilà. Et puis, quand elle a parlé, donc, par rapport au. Apparemment, c'est vrai qu'il y a une évolution vers des jouets plus non-genrés, plus ouverts, ça c'est sûr, on le sait, de plus en plus. Mais il faut quand même être vigilant. Je vais vous donner un exemple. Quand on regarde sur certains catalogues, quand on regarde par exemple la partie neutre, ce qu'on appelle la partie neutre, c'est en général les 9-12 ans, et c'est des jeux très... des jeux par exemple, des jeux de société, des jeux vidéo, des jeux interactifs, des choses comme ça, c'est effectivement pas du tout stéréotypé ni sexué normal sur les images, hein, parce que c'est des fonds beige, blanc, voilà. Et le contenu non plus. Alors par contre, effectivement, là aussi, où l'iconographie peut jouer un rôle, c'est par exemple si vous montrez quelqu'un qui est en train de jouer et que c'est deux garçons ou deux filles. Mm-hmm. Là, vous sexuez par définition en ayant mis. Donc il faut par exemple mettre garçon-fille les deux. Ça veut dire par définition en termes de représentation que c'est pour les deux sexes. Parce qu'il n'y a pas effectivement que le jouet en lui-même, ni la couleur. Il y a aussi si c'est un garçon ou une fille qui joue. Comment il joue. Voilà. Tous ces éléments-là jouent dans les messages implicite d'ailleurs envoyé aux enfants comme aux parents hein, d'ailleurs, et c'est pour ça que c'est intéressant d'en discuter, parce que c'est, et puis j'insiste souvent elle disait effectivement une petite fille va aller chercher les Legos. Alors il faut que je cite, il y a une autre chose qu'elle a dit aussi qui était extrêmement intéressante, c'est le fait qu'il y a plus en plus de garderies, de crèches, d'écoles qui viennent choisir pour permettre aux enfants effectivement de pouvoir jouer. C'est ce que je disais, les enfants des deux sexes ils peuvent jouer avec des jouets justement où on n'active pas de stéréotypes. Donc ça c'est plutôt bien, hein, l'évolution qu'elle a notée dans ce sens-là, comme quoi effectivement l'éducation permet d'ouvrir un petit peu le champ des possibles auprès des enfants et auprès des parents. Je voulais juste dire quelque chose, on utilise beaucoup à l'école maternelle les caplas, qui sont des, je fais pas de pub, mais c'est simplement des petits jeux en bois que tous les enfants connaissent à l'école, ce sont des petits jeux de construction, quoi. Et en fait c'est un jeu qui n'est pas, c'est pas possible de le stéréotyper au niveau de la couleur, parce que c'est du bois. Donc voilà, c'est du bois, c'est des barrettes de bois, quoi. Et en fait, c'est un jeu de construction, et c'est dans certains, j'ai observé que dans certaines enseignes, il était catégorisé comme jeu de garçon. Alors que c'est un jeu, enfin ça m'interroge parce que c'est un jeu que tous les enfants adorent. C'est un exemple pour dire comment on peut associer un sexe à quelque chose.
Moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué de voir des parents qui répondaient quand même que c'était les enfants qui choisissaient, mais que dans la vie de tous les jours, l'enfant il n'arrêtait pas de recevoir des signaux où c'était t'as une place assignée en tant que mec avec ces préférences là de jeu et en tant que fille. Et du coup, c'est vrai que c'était assez rigolo de penser que les enfants, c'était limite naturel. Il n'y avait pas du tout de construction sociale par comment est-ce que je développe mes goûts et mes attirances envers mes loisirs.
C'est-à-dire qu'il y a une grosse variation interpersonnelle. Vous avez des enfants qui adorent les poupées, il y a des enfants qui n'aiment pas, il y a des enfants qui aiment les voitures, et c'est beaucoup des renforcements sociaux. La plupart des enfants très très jeunes connaissent les éléments stéréotypés avant même eux d'avoir ce qu'on appelle la permanence du sexe, quoi. Donc connaître le fond de la catégorisation. Donc c'est quand même très très jeune, ils connaissent les éléments stéréotypés alors qu'ils pensent encore pouvoir changer de sexe, par exemple, dans leur tête, ou qu'on est une fille parce qu'on a les cheveux longs, on a un garçon, mais les cheveux courts, c'est des critères externes de catégorisation à 2 ans et demi, où ils pensent qu'ils vont changer de sexe, etc. C'est normal, ils ont 2 ans, et ils sont dans ce développement cognitif-là, mais ils ont déjà des stéréotypes, ils savent ce qui est, et effectivement, on sait très bien que les parents orientent ces choix, c'est-à-dire qu'on a tendance à encourager les choix préférentiels des jeunes enfants vers ce qui est censé être, en accord avec leur sexe, et à décourager dès qu'ils vont, effectivement, jouer avec quelque chose qui ne semble pas être en accord avec leur sexe. D'accord. C'est intéressant.
Merci beaucoup, Christine, vraiment.
Merci.
On va un peu speeder parce qu'on est en retard, évidemment. Du coup, on va faire une courte pause musicale et ensuite on va interviewer les gens du collectif contre le publisexisme.
Bonjour.
Alors, toi, tu fais partie du collectif contre le publisexisme de Paris. Est-ce que tu pourras nous parler un peu de votre collectif et de cette campagne contre les jouets sexistes de cette année ?
Oui, alors le collectif contre le publisexisme, c'est un collectif féministe qui existe depuis 2001 et qui se bat contre les représentations stéréotypées de genre dans la publicité, c'est-à-dire les stéréotypes de la féminité, les stéréotypes de la virilité et la norme hétérosexuelle dans les publicités qui transforment généralement les femmes en objets sexuels. Donc on mène régulièrement des campagnes contre certaines publicités particulièrement sexistes. On fait également des actions, notamment au moment du 8 mars, de la Journée internationale des femmes. On fait aussi des actions contre la Saint-Valentin ou la fête des mères, par exemple. Et donc, depuis 2002, on participe à la campagne contre les jouets sexistes, donc à Paris. On est un collectif parisien. Et cette campagne a été lancée par l'association Mixité en 2001. Et donc, depuis 2002, nous y participons. Cette année, c'est la 7e campagne contre les jouets sexistes qui a lieu du 3 au 14 décembre donc 2008. Et cette année, on est plusieurs associations féministes à l'organiser. Donc Mixité, comme je l'ai dit, les Panthères Roses et les Tumultueuses. Et donc nous-mêmes, le collectif contre le publisexisme. Et l'idée, c'est en fait tous les ans de se retrouver au mois de décembre pour dénoncer la fabrication des inégalités dès l'enfance, puisqu'en offrant des jouets, on offre des messages très clairs aux enfants qui sont « si tu es une petite fille, tu dois être de telle manière, si tu es un petit garçon, tu dois être de telle manière ». Et dans les deux cas, si tu es une petite fille, tu dois avoir des enfants, te marier avec un homme, être amoureuse d'un homme, etc. Et si tu es un garçon, de toute façon, tu dois surtout être viril, sinon tu seras étiqueté homosexuel. Donc ça, c'est grosso modo, ce sont les messages. Avant de parler peut-être de ce qu'on fait cette année, je voulais aussi parler du livre « Contre les jouets sexistes ». Donc c'est un livre qu'on a écrit l'année dernière, qui est sorti en 2007. Et en fait, on a essayé d'approfondir un peu tous nos arguments. On a vraiment étudié les jouets, on est allé dans les magasins, on est allé décortiquer un petit peu tous les jouets qu'on pouvait trouver. Et on a aussi trouvé des différentes catégories. Et en fait, bon, grosso modo, on a trouvé que dans le rayon rose, dans le rayon fille, il y avait quatre catégories de jouets. Il y avait les jouets qui parlent de la maternité et qui disent aux petites filles, voilà, il faut avoir un enfant, l'instinct maternel existe et surtout, il faut vous occuper des enfants. Alors, il y a aussi les jouets qui parlent de la maison et qui disent aux petites filles « Vous serez des ménagères, le monde de la maison, c'est le vôtre, vous allez cuisiner, faire le ménage, nettoyer, etc. C'est votre rôle ». Il y a aussi l'univers de la beauté. Alors ça, on le trouve uniquement chez les filles. Et c'est en gros, vous devez apprendre à être des séductrices, à être belle, à être obsédée par votre apparence, par la mode, pour séduire un homme. Et à être mince aussi, parce que quand on regarde les poupées, que ce soit Barbie, mais aussi des poupées comme Bratz, qui est une autre marque où les femmes représentées sont vraiment très 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 maigres. Donc voilà, ça c'est une troisième partie. Et la quatrième thématique qu'on a trouvée, c'est les sentiments, c'est-à-dire tout ce qui est l'amour pour les petits animaux, l'amour pour le prince charmant, puisqu'il faut trouver un homme idéal qu'il faudra épouser. Pour être heureuse, voilà, ça c'est un petit peu les quatre thématiques qu'on a trouvées chez les filles, la mère, la ménagère, la séductrice et l'amoureuse. Et quand on regarde au rayon bleu, chez les garçons, les jouets sont évidemment pas du tout sur les mêmes thématiques, puisqu'on va trouver plutôt des thématiques liées à la technique, la science, le savoir en quelque sorte, où on trouve des jeux très intéressants d'ailleurs, comme les jeux de construction, les jeux liés à la science, etc. Ces jeux très intéressants, on les trouve très 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 rarement dans les rayons filles. Il y a aussi une autre catégorie, c'est l'aventure. Les jeux d'aventure, ils sont quand même plutôt dans le rayon garçon. Et ensuite, on trouve deux autres catégories qui sont la puissance, le sport, être très dynamique, être musclé, être tout puissant, être le super-héros, ça c'est pour les garçons. Et une autre catégorie qu'on trouve que chez les garçons, c'est la guerre, c'est être un militaire, être un héros, un martyr, éventuellement en tout cas, apprendre aussi à tuer d'autres gens. Que ce soit à travers les jeux vidéo, les petits soldats ou bien les costumes, les panoplies. Donc voilà un peu schématiser les différentes catégories et on voit assez bien que c'est quand même deux univers très très différents. Donc ça voilà, c'est ce qu'on explique notamment dans le livre Contre les jouets sexistes. Alors cette année, justement, on a essayé de faire une action. Donc en fait, ce qu'on fait pendant la campagne contre les jouets sexistes, c'est des actions directes, non violentes, notamment dans les magasins. Là, en 2008, on fait notamment une action contre les jouets guerriers pour dénoncer particulièrement cette éducation à la violence pour les petits garçons. Et puis on fait une autre action plus contre les jouets sexistes. Et là, cette année, on fait également un débat avec, avec des gens de la campagne qui interviennent pour expliquer un peu le rôle des jouets et ce qu'on dénonce. Mmh. Et puis, pour la première fois cette année, on fait aussi des animations auprès des enfants eux-mêmes avec un centre social qui s'appelle Archipelia, qui est dans le 20e arrondissement à Paris. Et là, en fait, on fait une animation autour de livres antisexistes, fabrication de marionnettes avec les enfants, et voilà, pour discuter et aborder cette critique, et surtout essayer de donner aux enfants la possibilité, l'espace de réfléchir à ça eux-mêmes. Voilà, et puis ce que je peux ajouter aussi, c'est que la campagne contre les jouets sexistes, elle a lieu dans d'autres villes. En 2008, elle est aussi à Toulouse, à Orléans, à Rennes, à Nantes. Et puis il y a aussi des débats qui ont lieu. Il y a un débat qui a lieu à Avignon et un débat qui a lieu à Genève.
Et est-ce que tu peux nous dire aussi quelques mots par rapport à la campagne des années précédentes? Parce que comme c'est la 7e fois ou 8e année déjà, et moi j'ai entendu parler des actions ludiques dans les magasins, plutôt des actions directes.
Alors par exemple, ce qu'on fait, c'est ce qu'on a fait dans les années précédentes, c'est d'aller dans les magasins. On est assez nombreux et en fait, on distribue des tracts, etc. Et puis on change les jouets de place, c'est-à-dire qu'on prend les jouets filles roses et on les met dans le rayon bleu et on prend les jouets bleus ou kaki, parce que la couleur kaki est aussi très présente chez les garçons, enfin dans les rayons garçons, et on les met dans les rayons roses. Et voilà, c'est une action symbolique pour dire qu'on est pour le mélange et pour que les jouets soient tous accessibles à tous les enfants, avec une réserve quand même sur les jouets guerriers, parce que les jouets guerriers, dans ces cas-là, on les met dans un caddie et puis on met une banderole un peu interdit chantier autour en marquant jouets toxiques. Voilà, on préférerait s'en passer de ces jouets-là parce que on pense qu'il y a d'autres choses à inculquer aux enfants que la guerre, sachant qu'un enfant, une petite fille ou un petit garçon qui a envie de jouer à la guerre, il prend un bâton et il imagine un fusil. C'est pas la peine de lui offrir des jouets extrêmement réalistes, des micro-lasers, des sabres très sophistiqués. Là, on l'encourage à jouer à la guerre et surtout on banalise la guerre. Donc voilà, ça c'est un exemple. Et puis on va aussi distribuer des tracts. On essaye d'engager le débat avec les gens, parce que qu'ils soient parents ou pas, on est tous concernés. Nous sommes tous concernés, surtout là au moment de Noël. Donc voilà, réfléchissons un peu à ce que l'on offre. Et puis réfléchissons aux stéréotypes. C'est pas compliqué d'offrir des jouets qui soient pas sexistes. Voilà, c'est ce qu'on a voulu aussi aborder dans le livre. C'est que voilà, il y a plein de jouets créatifs, il y a plein de jouets qui sont plus très ludiques. Et puis on peut aussi offrir des objets non matériels. On peut emmener un enfant au spectacle, on peut lui offrir un instrument de musique, on peut l'emmener en voyage. Enfin, il y a plein de choses simples, ou simplement fabriquer des choses avec lui. Voilà, on peut inventer plein de manières de proposer aux enfants de s'amuser plutôt que de leur offrir des objets qui conditionnent déjà les inégalités hommes-femmes plus tard. Voilà, parce que la société sexiste telle qu'elle existe aujourd'hui, la violence contre les femmes, les inégalités de salaire, tous ces aspects de la réalité, et ça existe aussi parce qu'on nous éduque. Et voilà, pour la racine du sexisme, c'est aussi l'éducation. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire passer pendant cette campagne contre les jouets sexistes.
D'accord, merci beaucoup Léla. Et est-ce que tu pourras nous rappeler vos coordonnées des comités contre le sexisme et aussi où est-ce qu'on peut trouver le livre dont tu nous as parlé?
Volontiers. Alors le collectif contre le public sexisme, je précise qu'on n'est pas les seuls à organiser la campagne, on est 4 assos. Mmh. Mais en tout cas sur le site donc publisexisme.com www.samizdat.net, samizdat.net. Là, vous trouverez des informations, un catalogue, un contre-catalogue sur les jouets sexistes à télécharger. Et puis, le livre « Contre les jouets sexistes », qui a été publié aux éditions L'Échappée, eh bien, vous pouvez le trouver dans toutes les librairies. Vous pouvez le commander si vous ne le trouvez pas. Voilà.
D'accord, merci beaucoup.
Et merci Lilith et Martine et les autres. Au revoir.
De l'Ardèche, pécho, c'est la dèche. Le seul gosse beau, c'est le garde-pêche qui est marié avec les pains bêches. En attendant, la pauvre Marcelle, elle se fait yèche, elle se dessèche. Cupidon, faut que tu te dépêches de lui planter ta flèche. Elle se fait chier, elle a buvette. Elle danse comme une chaussette, elle a trop honte.
Bichette.
Marcel, c'est pareil, cette musique lui casse les oreilles. Au comptoir, elle sommeille affalée contre une bouteille. Au banjo, c'est pas très très beau. Marcel, Lily, Copristo, c'est la dédiale.
Vas-y, Coco!
Mais tous ces ploucs, elle en veut pas. Ils puent du bouc, ils sont caca. Elle chope Huguette par la braguette et lui dit:
viens là, toi.
Donc c'était Les Enculettes, la chanson Marcel et Huguette. Et pour info, Les Enculettes sont ce soir en concert à la Boulangerie du Prado à 20h30, donc 69 rue Sébastien Griff.
Voilà, vous êtes toujours sur Lilith, Martine et les autres, 102.2 Radio Canu, et on va passer au point actu.
Pour info aussi, avant on a écouté Les Ailes, Tonton Amédée, la musique d'avant. Voilà, alors les infos aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Eh ben déjà, je voulais parler de la journée internationale contre les violences faites aux personnes prostituées, qui est mercredi 17 décembre. Donc, il y a un rendez-vous à 17h30 place des Terreaux. En fait, vous avez sûrement entendu parler dans les infos qu'il y a souvent des prostituées qui disparaissent ou qui sont tuées. Là, ça a été le cas à Marseille au mois de novembre. En fait, moi, je voulais quand même rappeler que la violence contre les personnes prostituées, c'est avant tout la violence institutionnelle, puisque donc depuis la loi du 18 mars 2003, qui punit le racolage passif, ben, les prostituées, elles sont beaucoup plus vulnérables puisqu'elles ont été déjà repoussées aux limites de la ville. C'est beaucoup le cas à Lyon où il y a une grosse politique de répression contre les personnes prostituées et où du coup c'est cette violence institutionnelle qui va en fait favoriser la violence des clients et la violence des riverains qui sont souvent énervés d'habiter à côté des lieux de prostitution. Donc du coup c'est de plus en plus grave en fait parce qu'elles n'ont pas de moyens de se défendre. Et si avant les lois répressives elles pouvaient aussi entretenir des liens plus ou moins amicaux avec la police, c'est plus du tout le cas maintenant. Du coup voilà, c'est d'autant plus grave pour les prostituées qui sont sans papiers, puisque donc on sait que les sans-papiers sont quand même pas mal traqués ces derniers temps. Et donc voilà, donc moi en fait ça me semblait intéressant de parler ça parce que quand on pense violence contre les prostituées, en tout cas dans les médias dominants, on va plutôt parler de la prostituée qui s'est fait assassiner ou la prostituée qui s'est fait violer, encore que qui s'est fait violer, on n'en parle pas tellement. Et du coup, ça me semblait important de préciser que c'est avant tout la violence institutionnelle qui permet ces violences-là. Voilà, donc 17h30, place des Terreaux, mercredi 17 décembre. À part ça, on voulait aussi parler, donc il y a une petite info qui nous vient du planning familial du Rhône. En fait, il y a des anti-avortements qui ont censuré le film Les Bureaux de Dieu. Donc, c'est un film de Claire Simon dont on a déjà parlé dans l'émission sur le planning familial, justement. Et j'ai voulu en fait le communiqué du mouvement du planning familial du Rhône qui explique bien ce qui s'est passé. Alors, le LEM, Petite Salle d'Arrêt d'Essai de Tassin, s'est vu déprogrammer le film Les Bureaux de Dieu de Claire Simon par une association catholique, car celui-ci serait blasphématoire et prônerait l'avortement. L'association catholique dirigée par le père Matteo Le Gioco est bien connu des associations féministes puisqu'il faisait partie des organisateurs de commandos anti-IVG qui ont, à plus de 100 reprises en France, fait entrave aux droits des femmes de disposer de leur corps. Le LEM est lié par une clause du bail stipulant que le preneur exploitera la salle pour la projection de films de bonne tenue morale choisie par les chrétiens médias ou tout autre organisme qui lui serait substitué par les autorités ecclésiastiques. Donc alors, on ne comprend pas tellement. En gros, voilà, il faut que les films programmés soient en accord avec la bonne tenue morale. Donc, savoir ce que ça veut dire. Mais l'ULEM fait partie du réseau du GRAC et à ce titre est subventionné par la région Rhône-Alpes et la DRAC. Cette censure à cause des convictions religieuses est inadmissible. Le mouvement pour le planning du Rhône dénonce cette censure et derrière la remise en cause d'un droit fondamental pour les femmes. Le mouvement du planning familial du Rhône apporte son soutien aux bénévoles et aux salariés qui ont dénoncé et se sont opposés à cette censure. Donc le film il est reprogrammé cette semaine, le jeudi 11 décembre à 21h, samedi 13 décembre à 18h30, dimanche 14 à 19h15, en présence de la réalisatrice Claire Simon et en présence de Françoise Laurent, qui est la présidente du planning familial. Donc le cinéma, il est 62 avenue du 8 mai 45 à Tassin-la-Demi-Lune. Je finis sur le communiqué. L'association catholique et le père Matteo Le Gioco seront présents à la séance de dimanche. Nous vous invitons à dénoncer cette censure, à réaffirmer le droit à l'avortement et plus globalement les droits des femmes, et à soutenir les bénévoles et les salariés en venant débattre avec nous ce dimanche 14 décembre. En ces temps de remise en question des droits individuels et collectifs, nous devons plus que jamais être vigilantes et solidaires. Amitié féministe. Voilà. Alors, est-ce qu'il nous reste un petit peu de temps ? Du coup, eh ben, il y a aussi un autre truc dont on voulait parler, on va en parler très rapidement, c'est qu'il y a eu un recul de l'État sur la protection des femmes qui fuient les mutilations génitales dans leur pays. Donc avant, jusqu'en juillet 2008, il y avait l'OFPRA, donc l'Office pour les réfugiés et apatrides, l'Office français des réfugiés et apatrides, permettait en fait aux parents de ces personnes-là qui fuyaient les mutilations génitales d'obtenir le statut de réfugié, s'ils étaient donc dans le refus de ces mutilations. Et à présent, c'est plus vraiment le cas. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. C'est un peu compliqué. C'est-à-dire que c'est que les petites filles qui peuvent être protégées par le statut de réfugié, mais c'est pas dit que leur famille le soit. Donc, c'est un peu problématique puisqu'elles vont pas, pouvoir être séparées de leur famille, surtout si c'est ces familles-là qui les protègent. Donc, du coup, voilà, un retournement de situation qui va toujours dans la même logique du gouvernement actuel contre les sans-papiers et contre les femmes. Voilà, voilà. Je laisse la parole à pour le livre.
Donc oui, deux livres si vous voulez aller plus loin dans le sujet des joies sexistes. Donc on en avait déjà parlé, le livre d'Elena Gianni Bellotti, Du côté des petites filles, voilà, et un autre livre de collection Vie sociale sous la direction d'Anne Daflon Novel qui s'appelle Filles garçons, socialisation différenciée, point d'interrogation. Voilà, c'est la fin de l'émission. Je rappelle que vous pouvez nous écrire sur radiolilith@riseup.net. Je répète, radiolilith@riseup.net. Lilith, c'est L-I-L-I-T-H. Donc pour toutes les remarques, si jamais il y en a qui souhaitent venir à l'émission. La prochaine émission de Lilith Martine et les autres, c'est le 26 décembre et on parlera des sans-papières. Et n'oubliez pas d'écouter La Déprave la semaine prochaine à la même heure de 17 à 18 sur Radio Canu 102.2, la plus féministe des radios.
Lilith Martine et les autres.
Alors, qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu vas au concert ou... Je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas ce que je veux, mais merde, pourquoi vous me demandez toujours à moi? Je sais pas ce que je veux, mais merde! Ça me fait de la peine, ça prend l'air, je sais pas ce que je veux!
Ça me fait de la peine, je sais pas ce que je veux. Avec ou sans crème, ou juste un peu. Pour mon haleine, je fais ce que je peux. Je mets plus de gaine, ça fait des bleus. Je sais pas ce que je veux. Sucre ou sans sucre, aspartame, c'est pour les dames. C'est même pas la peine de me dire ce que je veux. De me dire des je t'aime ou juste un peu. Je sais pas ce que je veux. Non, je sais pas ce que je veux. Je sais pas ce que je veux. Non, je sais pas ce que je veux.
Moi, je suis grave indécise, en fait. Je laisse toujours les autres choisir pour moi, parce que, franchement, bon, j'y arrive pas, quoi. J'ai un choix, mais j'arrive pas à choisir, alors...